Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonsoir et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 17 de la deuxième saison, dans lequel j'ai le plaisir d'échanger avec, vous avez peut-être deviné, Pierre Twitou, le jeune prodige de Vivant 2 et d'Evian.
Moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. J'ai envie que les gens passent un bon moment. Et il y a des journées avec, enfin, comme les musiciens qui disent, ah, ça c'était un bon concert. Ah non, ça c'était un mauvais concert. Mais c'est pas parce que la dorade était un peu moins bien que d'habitude. C'est parce que il y a des jours où c'est plus dur de donner aussi. Et le but du jeu, c'est de pouvoir donner vraiment tous les jours.
Pourquoi Pierre? Parce que c'est un génie de la nouvelle génération. J'adore son univers, marqué et un peu déjanté. Son restaurant Vivant 2 mélange les genres, l'ambiance festive et les assiettes de haut vol. Il y a un côté spectacle complètement assumé et des clins d'œil très old school qui forment un tout fantaisiste. Dans cet épisode, il parle de la notion de recevoir, de friture et de bon appétit bien sûr. Avant d'écouter, petit rappel, comme les chefs, j'aime bien les étoiles, donc n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes en lui en décernant un maximum. Bonne écoute!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour Pierre.
Bonjour Julie.
Bon, il y a quelque chose qui m'étonne à chaque fois que je te vois, c'est que je te trouve à la fois si jeune et si déterminé. T'as toujours été comme ça?
Pour être déterminé, faut vouloir être déterminé. Enfin, c'est pas un état d'esprit, mais voilà, ouais, j'ai quand même envie de faire bouger, enfin moi évoluer personnellement. Et je suis dans une position où, enfin, c'est jamais très bon de se mettre besoin de. C'est quoi l'expression? S'allonger sur ses lauriers? Non, se reposer sur ses lauriers. Et donc, faut aller de l'avant. C'est essentiel d'aller de l'avant. Mais non, j'ai pas toujours été comme ça.
Tu doutes parfois?
Bah oui, tous les jours. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est assez bon? Est-ce que la casserole est assez propre? Est-ce que le jus est assez bon? Est-ce que mon couteau coupe assez? Est-ce que le poisson est assez bien? Oui, c'est, enfin. Sur la partie cuisine, oui. Après, j'ai réussi à essayer de minimiser tous les doutes possibles pour juste me concentrer sur des choses qui peuvent être aléatoires.
T'as l'art de le cacher.
Ouais, non, mais enfin, oui, mais déjà, je commence ma journée de la même manière depuis assez longtemps.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire ne pas prendre de petit déjeuner. non, si, enfin. Mais je me mets le moins possible de doutes inutiles. C'est-à-dire que voilà, je sais à quelle heure je vais me réveiller, je sais ce que je vais faire en premier, je sais comment je vais aller au travail. Et comme ça, après, par contre, on peut se remettre en question, se retrouver un peu face à l'inconnu, se dire tiens, il faut absolument qu'on change ce plat-là. Et d'ailleurs, on va juste décider une demi-heure avant le service quand il faudra vraiment aller imprimer les menus parce que Clément commence vraiment à te mettre la pression là pour trouver un intitulé, calculer un prix et tout. Mais non, on essaie de ne pas douter, on peut pas douter.
T'as besoin de ces rituels pour te mettre en bonne condition pour créer?
Non, j'arrive à bosser d'à peu près partout, que ça soit quand j'arrive pas à dormir après un service parce que j'ai beaucoup d'endorphines, ou en plein milieu de service, ça m'arrive de noter un truc. Il n'y a pas de moment propice, mais il faut, enfin, c'est toujours de garder une ouverture d'esprit à tout moment, parce que, enfin, je vais pas dire qu'il y a un éclair qui m'est tombé dessus et que j'ai eu une très bonne idée d'un plat un jour et que je suis merveilleux, mais c'est toujours un cheminement. C'est non, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Ça vient quand on en a pas besoin et ça vient pas quand on en a besoin.
T'as toujours aimé manger depuis petit?
Ouais.
Il y avait une grosse place accordée à la cuisine dans ta famille?
Oui, mais enfin d'ailleurs mes plus vieux souvenirs sont liés à la nourriture. J'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé cuisiner, je crois aussi.
Tu faisais des crêpes, des gâteaux, des choses comme ça ou...
J'ai un souvenir, alors je sais qu'une fois, je me suis brûlé en faisant des blinis et le pouce gauche, parce que j'étais trop petit et que je crois que j'arrivais pas à voir si c'était cuit ou pas, donc je m'étais brûlé le pouce. Non, mais je faisais un peu tout, mais en famille, voilà, c'était pas épluche peut-être nettoyer des navets avec mon père ou, j'ai un souvenir de mon grand-père père de ma mère, comment nettoyer des radis. Et les entailler en croix pour les mettre dans l'eau, pour les faire en fleurs. Mais non, j'ai toujours aimé manger. Le père de mon meilleur ami, quand j'étais petit, est toujours d'ailleurs restaurateur. Et ça nous arrivait le mercredi après-midi d'être, César et moi, voilà, laissés dans un restaurant vide avec nos petites voitures et nos feuilles de papier et nos crayons. Et d'ailleurs, on a dessiné énormément de restaurants à cette époque-là. J'aimais bien regarder Bon Appétit, bien sûr, le midi, et je trouvais que Jamie Oliver était marrant avec ses chemises de mauvais goût et son accent anglais. Il faisait la vaisselle. Enfin, j'aimais bien ça.
L'orientation en cuisine, c'est un peu c'était un choix et en même temps...
C'était un choix, peut-être une nécessité aussi, parce que j'en pouvais... Enfin, je vais pas dire que j'en pouvais plus, mais j'avais envie de faire quelque chose et j'avais envie de me lever le matin en étant content d'aller faire cette chose-là. Parce que, enfin, c'est horrible de se lever le matin et se dire « Oh, je vais encore... »
M'asseoir dans une salle de classe.
Ouais, j'ai cours avec un tel. Ah non, mince, j'ai oublié mon compas. Enfin... C'était des problématiques que j'avais pas du tout envie d'avoir. Et donc de commencer à bosser, c'était une grande libération, je pense.
Et quoi, c'est toi qui as choisi la cuisine, tes parents t'ont suivi?
Au début, mon père m'a beaucoup soutenu parce que je crois que lui non plus était pas très content à l'école. Ma mère était moins pour, enfin était même complètement contre. Mais maintenant, elle est très, enfin, six mois après, elle était très contente parce qu'elle me voyait heureux, je pense aussi. Mais du côté de ma mère, c'était un peu plus compliqué.
Mais bon, tu savais ce que tu voulais.
Ouais, en fait, ce qui m'a poussé à, enfin, ce qui me pousse tous les jours, c'est que voilà, quand j'ai commencé, moi, j'avais eu ma mère notamment qui me disait que c'était une énorme erreur. Certains de mes amis, mes anciens camarades de classe, mon ancien directeur le CPE, ouais, la troisième, qui disait que c'était une énorme connerie de faire ça. Et donc, en plus, je me disais, mais si moi je reviens en arrière maintenant, je vais vraiment, ça m'aura vraiment servi à rien. Du coup, c'est peut-être ça qui m'a un peu, c'était vraiment très, très, très dur au début, mais c'est sûrement ça qui m'a poussé à continuer et qui me pousse encore, quoi. C'est montrer aux autres qu'ils avaient tort, peut-être.
Et donc, tu te souviens, tu as fait un apprentissage en bac pro.
J'ai fait un bac pro en 3 ans, 3 ans d'apprentissage au Plaza Athénée. J'ai fait tous les postes. Quand il fallait aller au banquet, filer un coup de main, j'allais au banquet. Enfin, j'ai pas fait la pâtisserie et la boulangerie, mais au cours de ces 3 années, j'ai pu voir pas mal de choses. Là, j'ai dû faire la nuit, j'ai dû faire les petits déjeuners. Je suis resté toute la première année. Enfin, je crois que j'ai fait des vinaigrettes et des salades et des toasts pendant les 6 premiers mois. Ça, je m'en souviens. Voilà.
Mais tu te sentais plus à ta place qu'à l'école.
J'ai commencé le 31 août 2009. Je venais d'avoir 16 ans et voilà, c'était tout de suite énormément de pression. Une rigueur énorme, toc, on n'a pas le droit d'être sale, merci, enfin on peut rien, enfin il y avait pas d'erreur de possible, quoi. Et d'un côté, donc, j'avais ça, et de l'autre, j'allais à l'école comme avant, on sauf que cette fois-ci, il fallait y aller en costume cravate, deux semaines par mois, et on avait, t'avais quand même un cours de, voilà, t'avais plus d'histoire géo, mais t'avais de la, ce qu'on appelle de la techno cuisine, donc, non, on apprenait juste par cœur le nom des brigadiers, des noms de sauces, des régions, des saisons.
Sauce mornay, sauce.
Oui, voilà, les fonds de base, Rouchot, lait froid Rouchot, des trucs qui resteront à jamais, enfin, dans ma tête, quoi.
Et tu te souviens des chefs que t'admirais quand t'as commencé?
Bah, toujours Joël Robuchon, parce que j'aimais énormément Bon Appétit, bien sûr. Mais j'avais une fascination pour mon chef exécutif. Et surtout pour le sous-chef Christophe Malex, qui était fort dans tout. C'est un cuisinier remarquable qui, voilà, tous les jours entrait dans le frigo, disait bon, bah, en plat du jour, on a ça, ça, ça et ça. Je vais faire un truc. Et puis c'était à chaque fois incroyable. Et je l'admire toujours. Il m'a énormément appris. Et ça me fascinait, quoi. Mais derrière, voilà, c'est peut-être ce que je commence à avoir aujourd'hui, c'est voilà, d'avoir, là, ça fait bientôt 10 ans de métier, avoir vu beaucoup de choses, et à l'époque, moi, ça me fascinait d'avoir une facilité, voilà, lever un poisson, il savait le faire parfaitement, la viande, il savait le faire parfaitement, les légumes, c'était pas toujours parfait, il était complet dans ses compétences.
Et tu voyais ton avenir comment dans la restauration? Quand t'as commencé, t'avais déjà des rêves d'ouvrir un restaurant ou pas du tout?
Je sais pas si je me voyais rester très longtemps. Enfin, je me voyais pas rester au Plaza Athénée après mon apprentissage, en tout cas. Mais j'avais prévu d'aller au Japon à la base, en fait, parce que c'est un pays que j'ai eu la chance de visiter jeune. Et j'avais envie d'aller. C'était un défi, mais j'avais envie d'aller travailler là-bas dans un restaurant à Kyoto. J'avais rencontré le chef, j'avais été un peu époustouflé, j'avais pas pu aller à manger là-bas, mais je m'étais dit que j'allais partir et voir, et pour un blème de santé, je devais revenir à Paris tous les mois, du coup, je suis allé en Angleterre finalement.
Au sketch. Donc ça, c'était après tes 3 ans.
Après mes 3 ans au Plaza Athénée, voilà, j'ai fait 2 mois dans la campagne entre Londres et Oxford, dans les Chiltern Hills. C'était un tout petit bled, un restaurant qui s'appelait Sir Charles Napier, qui était un ancien relais de chasse, un pub, puis un gastropub, qui avec des chefs français pendant 30 ans. Puis je crois qu'au milieu des années 2000, ils se sont affirmés, ils ont dit non, on est en Angleterre, on met que des Anglais. Et j'avais passé 2 mois là-bas, j'habitais sur place. Alors comme il n'y avait pas de bon pain, vous pouvez trouver facilement, du coup ils faisaient leur pain eux-mêmes. Comme il y avait beaucoup de chasseurs, voilà, il y avait 2 fois par semaine des types qui arrivaient avec des barbours un peu remplis, et puis on s'occupait de ça. Et j'habitais sur place, il y avait 2 chiens, donc il fallait aller un peu les promener le matin et l'après-midi. C'était une assez belle expérience. Et puis après, ouais, Sketch, 2 étoiles au guide Michelin, Romain Chapelle venait d'arriver en tant que chef de cuisine. C'était une création de poste parce que il y avait de plus en plus de travail, du coup. Au début, je faisais un peu que les amuse-bouches et je courais un peu partout. Enfin, j'aidais où il fallait aider parce que c'était pas bien défini. C'était très particulier. C'était déjà mon premier jour en cuisine. C'était la semaine où Monsieur Gagnère était là. Donc là, il était arrivé, et après plusieurs, parce qu'il venait une fois tous les 2 mois, vraiment une semaine. Et puis il était là le matin. Il arrivait à 8h30. Voilà, on arrivait entre 7h30 et 8h. Et il arrivait à 8h30. Il disait bonjour à tout le monde, et puis il disait tiens, t'as un couteau, et puis il se mettait à côté de toi, bon, t'as quoi en mise en place? Il faisait la mise en place, il regardait le menu, il disait bon, il changeait l'intégralité du menu à 11h30, donc il fallait tout recommencer, et puis à 13h, il rechangeait encore un peu le menu, et là, je suis toujours fasciné par ce, je continue de l'appeler monsieur, pas chef, parce que c'est une personne extraordinaire. Et de voir quelqu'un qui a tant de connaissances, c'était génial. À la fin, j'ai compris que il souriait quand il me disait bonjour parce que je m'appelais Pierre aussi. Et à chaque fois, je me dis, pourquoi il me fait un grand sourire en me disant bonjour Pierre, je comprends pas. Et en fait, juste parce qu'on avait le même prénom. Mais c'était, non, c'était énorme. C'était génial.
T'es resté combien de temps là-bas?
Je suis resté un peu moins de 8 mois, je crois, 8 ou 9 mois.
Et après, t'es revenu en France?
Après, je suis revenu en France, bah, parce que j'avais une opération de la mâchoire qui était programmée. Donc, j'ai mangé de la purée et de la soupe pendant plusieurs semaines. J'étais un peu défiguré. Et puis, je me suis mis petit à petit à un peu rechercher du boulot, à me poser des questions. Est-ce que je reste à Paris? Est-ce que je vais à l'étranger? Est-ce que je vais au Japon? Parce que je m'étais dit que j'allais aller au Japon avant. Et finalement, je suis resté à Paris.
Au Servant.
Bah, je suis allé déposer un CV chez Septime. Bertrand était en fait à Penningen avec mon cousin, donc on se connaissait un peu de loin. Et il m'a dit, ah, mais nous, on cherche personne, mais, ma copine Tatiana ouvre son bistrot, je te passe son numéro. Et voilà.
T'as fait l'ouverture.
J'ai fait l'ouverture.
Grand écart, quand même, après le Plaza, Sketch, expérience différente.
Ouais, mais j'en avais envie aussi, ouais. Je crois, parce que c'était un resto dans lequel je pouvais peut-être m'identifier, où j'avais envie d'être client, tout simplement, aussi. Enfin, moi, j'arrivais pas, c'était beaucoup trop, le niveau était beaucoup trop haut pour moi, et j'avais pas le niveau, donc je suis pas resté, fait trois mois, je crois, vraiment le début, et en fait, j'arrivais pas.
Physiquement, tu veux dire?
Non, techniquement, j'avais pas le niveau, quoi, ça a été une énorme remise en question. C'est-à-dire, ça, j'y arrive pas du tout. Je suis loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce que t'as fait, alors?
Du coup, j'ai fait un grand écart. Et je suis allé travailler chez Miznon, dans le Marais, et faire le dimanche, quand il y avait du monde, 2000 sandwichs par jour, avec, des pitas, avec, que des ingrédients frais, une cuisine complètement ouverte où il fallait crier le nom des commandes, tout annoncer.
Cuisine spectacle un peu, dans un certain sens.
Moi, je ne suis jamais allé au Miznon de Tel Aviv ou aux autres restaurants d'Eyal Shani. Il y avait une vraie énergie, en fait. C'est un lieu dans lequel il y avait une énergie. De pousser à la porte, il y avait une énergie. Et je pense que ça a un peu participé à ce que sont nos restaurants aujourd'hui avec Arnaud. C'est que ce soit vivant ou déviant. On peut pas dire pousser la porte de déviant, mais quand on rentre dans nos lieux, je pense que c'est très important pour nous qu'il y ait cette énergie et cette présence
d'être chez quelqu'un.
Oui. On nous dit souvent, on a l'impression d'être reçu chez un ami ou reçu chez quelqu'un plutôt que d'aller au restaurant. Mais parce que aussi, on peut, on est là. Moi, on est là tous les jours. J'ai été seul en cuisine très longtemps, mais on est là tous les jours. Et quand on peut pas être là, on s'arrange pour être là tous les jours et on ferme si on a un déplacement, mais on est là tous les jours, donc on peut donner la même énergie tous les jours aussi. Et c'est peut-être chez Miznon que ça a commencé de devoir crier tous les prénoms, toutes les commandes, de travailler avec beaucoup d'Israéliens. Moi, je parle pas hébreu, apprendre à dire j'ai besoin de 3 choux-fleurs maintenant.
Que tu cries
en plus. Et ouais, c'était très intéressant. Moi, mais très rapidement, j'ai fait 8 mois. À la fin, moi, même quand mon prédécesseur était parti, en attendant mon remplacement, il y a eu ce moment où j'étais chef de cuisine, mais ça me manquait de cuisiner. Voilà, j'étais, mais pas parce que je travaillais tous les jours, Voilà, je faisais des boulettes, je faisais des cales de cuisson. C'est moi qui gérais le service, mais je ne cuisinais pas, dans le sens où je n'allais pas. C'est un restaurant israélien, donc il y a des tomates et du concombre toute l'année.
Oui.
Et donc j'avais, ouais, les saisons me manquaient, la diversité des produits me manquait aussi, et donc pas re-grand écart. Enfin, si, parce
Un
que je suis
petit peu.
un peu quand même. Non, mais j'ai fait un voyage au Japon à ce moment-là qui m'a remis un peu, qui m'a ressourcé, on pourrait dire, où j'ai énormément mangé, j'ai énormément baladé, je me suis dit, tiens, je suis loin du compte encore, quoi. Pourquoi? Enfin, et après, en fait, je me suis juste, je crois que j'étais allé, ouais, j'avais pris un verre aux deux amis et il y avait, un morceau de papier qui disait cherche appartement deux pièces quartier Oberkampf et cherche chef de cuisine.
T'as
J'avais
dit
pas
c'est
besoin
pour toi.
d'appart, mais du coup j'avais parlé avec David et je lui ai dit je suis cuisinier, voilà, là je reviens d'un voyage au Japon, mais si tu veux, je peux faire un essai vendredi, je crois. Et donc on a fait quelques essais et puis ça a commencé comme ça.
Là, c'était ta première place officielle de chef de
De
cuisine.
ouais où c'était où je pouvais décider d'un menu. On réouvrait le midi parce que ça avait été fermé le midi à un moment et voilà, bon, il y a quand même des contraintes, voilà, c'est il faut les 10 trucs à la carte. Il y a toujours deux ou trois trucs qui doivent être envoyés du bar, il faut toujours deux desserts. Il faut qu'il y ait un spectre ça c'est quelque chose que j'ai commencé à vraiment moi, je m'en suis rendu compte là-bas, c'est toujours un spectre, il faut voilà du enfin, parce que aussi c'est un
Oui,
tout petit toute petite cuisine
c'est minuscule.
oui là j'ai commencé à prendre l'habitude à ce moment-là aussi
Vous
toute petite
étiez
cuisine
combien dedans?
bah ça nous arrivait d'être trois de temps en temps le samedi quand il y avait un chef suédois qui venait juste faire un service le samedi midi, Adriana qui était la chef mais qui était enceinte du coup qui gérait un peu qui était en train de partir et moi qui venais faire mes emplaces pour le soir et ça nous arrivait d'être trois mais c'était
C'était le
bah tu
max.
peux pas bouger tu peux pas bouger là, tu te passes les trucs mais non mais c'est deux Karim qui est là toute l'ouverture qui s'occupe des entrées et qui fait la plonge et moi donc t'es deux et il faut changer tous les jours le
Est-ce que
menu.
tu disais, t'as un squelette un peu de menu que tu...
Ouais, et aujourd'hui, on a, bon, je n'aime pas trop être ancré, mais voilà, il y a toujours deux espèces de petits amuse-bouches, quatre entrées, dont deux poissons, une viande et un légume, quatre plats, et deux desserts. Et on pourrait faire plus. Moi, j'ai pas envie de faire moins, tout simplement parce que pour une table de quatre qui vient dîner, ça, tout le monde peut avoir une entrée ou un plat différent aussi, et ça nous permet d'avoir quatre techniques de cuisson tout simplement quoi. Mais ouais, c'est un spectre de menu qu'on a, et puis il faut voilà le faire évoluer. J'aime bien garder des plats à la carte assez longtemps pour pouvoir vraiment aller au bout de l'idée originelle du plat, de se dire tiens, on va faire un morceau de poisson comme ça avec ou une volaille comme ça ou un jus comme ça et puis ouais la viande va peut-être changer mais sur le mois et demi sur lequel on a travaillé sur vraiment se concentrer sur une technique à la fin de ce mois et demi on pourrait dire ok là on sait comment faire on le fait correctement.
Tu
Ouais.
peaufines de jour en jour ta recette. Enfin...
Bah, en arrivant chez Vivant, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien, tiens, le maquereau, je sais pas vraiment bien lever un maquereau. Mais du coup, j'ai fait du maquereau pendant un mois et demi, tous les jours, 5 jours par semaine. Voilà, c'est 6 semaines, 3 kilos. Voilà. Et au bout d'un mois et demi, tu te dis, bah, voilà, je
Tu
sais très,
maîtrises le maquereau.
je sais lever le maquereau. Bon, tiens. Le bar, d'accord. Okay, le bar. Après, la dorade. Après, tiens, j'aimerais bien savoir vraiment très bien faire un poulet. Voilà. Alors, on commence. Pintade. Après, on se dit, bon, tiens, on va faire plus grand. Tiens, on fait un canard.
C'était très expérimental au début, vivant pour toi.
Ouais, bah, parce que, enfin, déjà, il n'y avait pas de règles. On s'était dit, avec Arnaud, bon, bah, on sait pas trop ce que ça va devenir. On avait signé un contrat de 6 mois. On s'est dit, tiens, on va voir combien de temps, enfin, voilà, on fait un point dans 6 mois.
Juste pour expliquer, Arnaud, donc un copain de ta sœur que tu croises
Que,
dans
bah,
la rue, qui te propose le poste, c'est ça?
moi, je revenais d'Uruguay à ce moment-là. J'avais, après les deux amis, j'étais parti quelques mois en Uruguay, parce qu'un ami qui a plusieurs restaurants m'avait dit un jour, ah, mais tu sais, j'ai ce restaurant au bord de la plage en Uruguay. T'es pas en train de devenir fou dans ta toute petite cuisine à Paris enfermée. Tout le monde habite ensemble dans la même maison au bord de la mer. Si tu veux venir, tiens, je t'envoie des infos. Et puis j'y suis allé. Et c'était assez marrant de se retrouver. J'ai fait espagnol LV2, mais voilà, je parlais pas espagnol. Donc tu vas dans un autre continent, dans un autre hémisphère, dans un pays dont tu parles pas vraiment la langue. Les produits sont complètement différents. Et c'était un restaurant ouvert que le midi, donc de décembre à mars, ce qui est la saison estivale là-bas, au bord de la mer, donc où tout le monde est, enfin les clients en tout cas pieds nus, en maillot de bain, et où c'est énormément de monde quoi. Et c'était très intéressant et j'étais content. Et en fait, ça, voilà, ça m'a remis les compteurs à zéro aussi quoi. De se dire, voilà, ça c'est ce qui se passe ailleurs, mais maintenant je reviens à Paris. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Je me sentais pas forcément prêt, mais j'avais pas envie de reprendre un poste. Je savais pas trop. Et puis on a pris un café avec Arnaud. Il m'a dit, bah, tu sais, moi j'ai le projet d'ouvrir Grazella avec, enfin, ma compagne qui est devenue sa femme, Grazella. Dans ce qui était vivantable avant, on a l'espace de Vivant Cave. Du coup, ça s'appelle Vivant. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que ça t'intéresse? Et donc, on s'est un peu tapé dans la main. On se dit, bon, on voit. Et puis, on est parti pour 6 mois. Et au bout de 3 mois, on a changé le contrat et par la suite, on s'est associé. Mais l'idée, c'était de, ouais, il n'y avait pas de règles. Ça a failli de, il y avait pas de règles. Fallait faire à manger. Voilà. C'était ça, la règle.
Alors, en même temps, oui, ce que tu disais, un peu expérimental, ça t'a permis de tester plein de choses,
Bah,
de repousser aussi tes limites, toi-même.
c'était pas un restaurant, en fait. Faut pas,
C'était un
enfin,
bar.
c'était un bar. Il y avait un four domestique,
Une plaque.
une plaque, quand je suis arrivé, que une, mais je demandais une deuxième, une plaque que j'ai toujours d'ailleurs, qui nous sert toujours chez Vivant aujourd'hui, pas d'extraction, un petit frigo, moi j'avais deux chalumeaux. Et avec ça,
Amuser la galerie.
fallait faire. Donc au début, je faisais que des légumes et du poisson. Et il y avait encore quand même un peu de charcuterie, il y avait du fromage, et puis petit à petit, et toujours un plat de pâtes, et puis petit à petit, on a enlevé les charcuteries, et on a fait juste une assiette de fromage qu'on pouvait prendre après avoir mangé. Et petit à petit, les menus ont évolué, la qualité du service a aussi un peu changé, on a commencé à prendre les réservations, on a commencé à faire deux services. Un soir, j'ai un pote James, qui avait eu des bars, qui a très longtemps bossé enfin, qui avait des boulots de vacances dans des restaurants, qui me disait, ah tiens, j'aimerais bien bosser, mais juste faire la plonge ou juste derrière le bar. Donc on était trois, juste un vendredi soir, on s'est dit, bah, quand même à trois, c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, on a trouvé quelqu'un pour nous aider, aussi parce qu'il n'y avait pas de lave-vaisselle aussi. Donc, du coup, quand on avait besoin, au début, je me souviens quand on avait pour le deuxième service, il fallait mettre sa main au fond de l'évier pour chercher deux couteaux pour les laver pour pouvoir redresser les tables. Ça a duré que quelques semaines, mais ça paraissait très 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 long à l'époque. Et puis donc petit à petit, voilà, une troisième personne, après il y a eu un lave-vaisselle, après il y a eu une quatrième personne, et il y a eu une vraie évolution, tout en gardant dans l'esprit qu'un jour, on allait faire des vrais travaux, installer une vraie cuisine, mais on voulait prendre le temps aussi, je pense. Le projet de Déviant est un peu arrivé par hasard, parce qu'on avait l'opportunité d'investir ce cube de 40 mètres carrés dans lequel on pouvait un peu décider de faire ce qu'on voulait. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah, voilà, il n'y aura pas de réservation, il n'y aura pas de chaise,
Pas de porte.
pas de porte. Ça, c'est venu par la suite. C'est pas de façade existante, en tout cas. On voulait que
Cinq
ça
pas, hein, c'est
ressemble
ça?
à,
Non?
bah, on peut plus vraiment en parler parce qu'on doit rajouter une façade avec une porte pour des trucs de police. Donc, enfin, je sais pas, clap, je sais pas comment on peut plus dire 5 pas. Malheureusement,
Mais
c'est très triste. Et c'était pas là, pas de
c'était
réservation, pas de chaise, pas de fromage, pas de charcuterie. Mais par contre, on pouvait faire tout ce qu'on ne voulait pas faire chez Vivant, à savoir de la friture, des cocktails. On se dit, ah ben non, ça on peut pas servir ça quand même. Voilà,
Déviant, hop,
Déviant,
déviant.
boum, voilà. Ah, ça, j'ai une super idée, mais allez, Déviant. Tiens, ce serait marrant d'imprimer du papier alimentaire marqué Déviant et de mettre des. En fait, un des places à l'ouverture de Déviant, on avait fait des wings. Parce qu'un jour, on en a mangé au personnel chez Vivant, parce que j'avais trop d'ailerons et que j'avais pas de sous de mes volailles et j'avais pas de jus à lancer. Du coup, on en a fait au personnel. On s'est dit, tiens, ce serait bon, les wings. Du coup, on en a commandé. On en a fait un ou 2 jours au menu, je crois, chez Vivant, mais pas à la carte. Et puis après, on s'est dit, ouais, non, mais en fait, ça, faut en faire chez des viands. Et donc, il y a eu après cette espèce d'aller-retour créatif où, quand on avait une idée, elle pouvait évoluer, vraiment dire, tiens, ce sera
Dans un sens ou dans
dans
un
un sens
autre,
ou
ouais.
dans l'autre. Et même Clément, qui s'occupe de toute la sélection des vins, qui fait un boulot phénoménal, il n'y a pas de doublon, en fait.
Oui, il y a certaines cuvées, il m'expliquait, je crois, il y a certaines cuvées qui partent chez
Ouais,
Déviant
et
et
d'autres chez Vivant.
d'autres cuvées du même vigneron qui sont
Ouais,
plus chez
ce
Vivant.
qui nous permet de proposer deux expériences similaires mais très différentes. C'est ça qui est important. La qualité reste la même. C'est le même pain, c'est la même huile
Et
d'olive.
on s'éclate tout autant dans des styles différents, comme tu dis,
Oui,
mais
bah on va pas se des
on se
viandes,
régale,
faut
enfin.
réserver. Il y a un premier ou un deuxième service. Pour arrêter d'avoir des no-shows, on a mis en place un système d'empreinte bancaire. On a des gens qui nous appellent tous les jours en nous demandant, ah, mais
Comment
si je...
c'est perçu, ça?
Très mal. Bah, souvent, ah oui, j'ai essayé de réserver en ligne, mais on me demande mon numéro de carte de crédit, mais si par exemple j'annule une demi-heure avant, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que, en fait, nous, on arrive tôt le matin, enfin, tôt, relativement tôt, 5 jours par semaine, on travaille très dur. Il se passe que, enfin, voilà. Mais je donne souvent l'exemple d'un billet d'avion. Quand on prend un billet d'avion, on s'arrange pour le prendre et pour venir, il faut faire
Et
pareil.
si on le prend pas, on s'est perdu.
Voilà, exactement. Je
Mais c'est
pense
vrai
tous se retrouver dans la
que
situation. C'est très énervant. Mais généralement, c'est parce qu'on s'est dit, mais ouais, mais c'est bon. Ça roule bien le samedi matin. Je vais avoir cet avion. En fait, on l'a pas. Mais
Mais toi, c'est en fait, il y a combien de places au Vivant?
chez Vivant 2, maintenant, chez Vivant 2, il y a 19 places.
Vivant de 19 places, et si t'as une table qui vient pas, ça peut mettre en péril ton entreprise.
Ben,
Enfin.
en fait, une table de 4, si on arrondit à 20 places, on fait 2 services, une table de 4, ça fait 10%. Tout simplement. Donc, si on a juste 2 fois 2, une table au premier service qui vient pas, une table au deuxième, ça fait un trou de 10%.
C'est énorme.
Si on peut pas, on peut pas travailler comme ça. Et ça nous est arrivé. Avant les travaux, il y a eu un soir, on a eu, je crois, 11 no-shows.
11 sur la soirée.
Ouais, ça fait 25, enfin, c'est un quart de gens qui réservent ailleurs et qui, finalement, on vient pas.
C'est ce qui t'a poussé à mettre en place cette
Non, mais
façon de faire un peu ou...
c'était, En fait, c'est pas, je vais pas dire que c'est décourageant, mais c'est, on a une réservation et puis en fait, les gens viennent. En fait, on a l'impression de se préparer pour quelque chose et puis pour rien. Et c'est horrible. C'est horrible.
Oui, et puis ça met, enfin moi je trouve que ça met en péril économiquement l'entreprise aussi. Les gens ils ne pensent pas à ça.
Mais après, on a un petit restaurant, donc on a la chance d'avoir beaucoup de passages.
Oui.
On arrive souvent à, là, il y a souvent deux personnes qui rentrent et qui disent, ah, bonjour, vous avez pas de la place pour trois par hasard. On dit, bah, écoutez, oui, dans 20 minutes, parce qu'il y a une annulation ou quelque chose. Mais c'est, même pour les quantités, la nourriture, enfin, je veux dire, voilà. Les poissons arrivent tous les jours, les légumes tous les jours, les herbes tous les jours, la viande, les volailles deux fois par semaine. Mais parce qu'il faut un peu les faire sécher, il y a des jus, on les fait sur deux voire trois jours. On peut pas. Enfin, on se prépare pour faire deux fois 19 couverts.
Bien sûr. Est-ce que c'est des contraintes que tu citais tout à l'heure, comme le fait que la cuisine soit toute petite et assez peu équipée, que sont nés ton style?
Dans un premier temps, oui. Avant les travaux. Enfin, à la fin, je garde tous les menus. On a pris des menus tous les jours. J'en garde un sur lequel j'ai mes commandes et des annotations. Et après, ils sont tous très bien classés, bizarrement pour moi, bien les classés dans un gros trieur au bureau. Et donc, je regarde là cet été, j'ai regardé tous les menus depuis l'ouverture. Et puis, j'ai vu une évolution. Mais j'ai vu une vraie évolution. Et la cuisine qu'on faisait avant les travaux. N'est pas la même qu'on fait aujourd'hui, aussi parce qu'on peut se permettre de faire autrement, mais ça, c'est des contraintes, oui, qui ont défini certaines règles, à savoir que voilà, comme je pouvais pas dire tiens oui, ça je vais juste le mettre 3 minutes sur la plaque dans la casserole. L'épinard va un peu tomber, ça va être super, comme ça je pouvais pas le faire. Pour rendre la manière que j'avais trouvé de faire des choses bien, je m'étais imposé la règle de tout ce qui pouvait être fait à la commande devait être fait à la commande. Donc toutes les découpes de poissons étaient faites à la commande. Donc voilà, tous les poissons, ça m'est arrivé
beaucoup de cuisson aussi.
Oui.
Est-ce que tu dirais que c'est des contraintes que tu expliquais tout à l'heure, le fait que le lieu soit petit, peu équipé, que ton style s'est façonné?
C'était même pas équipé, plutôt que peu équipé. Oui, parce que ça m'avait forcé à me concentrer sur autre chose, comme je pouvais pas faire des... Enfin, techniquement, je pouvais pas... Si j'ai réussi par la suite, mais voilà, faire une cuisson magnifique d'une volaille, je pouvais pas poêler quelque chose, je pouvais pas griller quelque chose, je pouvais pas faire plein de trucs. Du coup, je me concentrais sur tout ce que je pouvais faire pour améliorer un plat, c'est-à-dire le faire à la commande, donc toutes les découpes. Je suis allé jusqu'à lever des poissons, des sardines, je crois, et des maquereaux aussi, à la commande. Des coquilles Saint-Jacques, comme je pouvais pas faire une sauce ou les cuire d'une certaine manière comme je voulais, bah du coup je les préparais à la commande, c'est-à-dire qu'elles étaient dans mon frigo avec un petit linge pour qu'elles soient noires, puis je les nettoyais, je les ouvrais, je les présentais entières, et voilà, je les faisais deux par deux pour les clients et c'était un gage de qualité supplémentaire. J'ai Si on peut dire ça comme ça, ouais.
Et t'as gardé ça pour certaines... Maintenant que ta cuisine est plus, plus équipée...
On fait tout. On continue de faire toutes les découpes à la minute. C'est super important pour nous. Et en fait, même le fait de se dire, ok, j'aurais... Là, par exemple, une dorade aujourd'hui, je vais la lever. Enfin, je vais l'écailler, je vais la vider, je vais la lever. Et après, je vais séparer le ventre du dos. Mais après, je garde la peau et pendant le service, j'enlève la peau. Au fur et à mesure, ça garde une qualité supérieur. Enfin, il n'y a pas que la truffe qu'on a besoin de couper devant le client, quoi. C'est pareil pour tout. Je veux dire, un morceau de poisson qui a été levé, taillé, mis dans une barquette, avec portionné, avec des petits papiers sulfurisés pour séparer les portions. Pendant le service, d'ouvrir un frigo, de sortir une barquette, d'enlever un couvercle, d'enlever un premier papier, de mettre ce... Enfin, c'est une perte de temps aussi. C'est une perte de temps et de qualité. Après, on fait 19 couverts. On peut se permettre de tout faire nous-mêmes. Mais c'est le but de ce restaurant. On a très peu de place. Donc, moi, j'ai pas besoin de quantité énorme. Voilà, par jour, il me faut entre 2 et 3 canards. J'en vends pas 10. J'en veux 2 et 3 canards. Par contre, il faut qu'ils soient parfaits. Voilà. Je prends 6 kilos de Saint-Jacques par jour. Les 6 kilos doivent sortir du lot. Parce que j'en ai besoin que de 6, donc il faut qu'elles soient parfaites. J'ai pas besoin de quantité extravagante. Il me faut un tout petit peu. Donc ce que je reçois, je peux pas avoir... Enfin, c'est comme si on commande 3 bottes de carottes. Enfin, si on va au marché, qu'il y a une botte qui est normale, une botte qui est un peu vétillée, une botte qui sort du lot. Moi, le problème, c'est qu'il me faut que la botte qui sort du lot. Et c'est pour ça qu'on nous demande souvent si on, ah, mais il n'y a jamais de place, il faudrait faire un plus grand restaurant. Je dis non. Le but pour nous, c'est d'avoir un petit lieu sur lequel on peut vraiment, tout faire nous-mêmes, tout faire au maximum à la commande et surtout avoir une qualité de produit vraiment, bien.
Et c'est vrai que c'est ce que ça devrait être finalement la cuisine, mais, ça s'est perdu.
Non, ça s'est pas perdu. Il y a énormément de personnes qui, je trouve, même bossent très, très, très bien, même beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Hein.
Ce côté mais, de cuisson à la minute.
Mais c'est par contre, vois, c'est, mais c'est moi, assez moi, rare. Je vais pas dire que je ne sais que travailler comme ça, mais je sais travailler comme ça. Je sais pas si je pourrais aller dans une brasserie. Peut-être que je saurais juste pas faire.
De la mise en place à fond.
Non, mais j'ai déjà fait, ouais. En Plaza Athénée, tu fais ta mise en place, tout est portionné, tout est pesé, au gramme près, voilà, je me souviens des grammages, hein. Que ça soit la portion de riz basmati pour le room service, ou la portion de turbo, ou la portion de cabillaud qui était un grammage différent, je me souviens de tous ces grammages. Je l'ai fait. J'ai d'ailleurs acheté la même marque de balance que j'avais au Plaza Athénée parce que c'était la plus solide qu'on avait. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et ça ne correspond pas à notre mode de fonctionnement, ça ne correspond pas à la manière dont on travaille. C'est pas nous, en fait.
Comment t'as fait pour te glisser dans ce lieu qui avait quand même un nom, une aura très forte, et lui donner une nouvelle personnalité, ta personnalité?
Bah, je vais même dire nos personnalités, parce que on rigole souvent de ça, on dit souvent à Cardon, on n'est pas assez associés pour rien, parce que on est très complémentaires aussi dans nos qualités, mais il y a des points sur lesquels on réfléchit vraiment à deux, même avec Clément, qui est notre collaborateur le plus précieux, sans vouloir faire de jaloux, mais c'est important pour nous d'avancer ensemble, et ça a commencé par ne pas faire ce qui a été fait avant, ou ne pas faire quelque chose qui a marché avant. Et donc, petit à petit, on a fait notre restaurant. Oui, dans un lieu qui existait, mais on se pose pas beaucoup la question de se dire, voilà, mais juste, on a repris un restaurant, on a gardé le nom parce que c'était le même restaurant aussi. On n'allait pas l'appeler autrement parce que on est dans cet état d'esprit vivant. C'est aussi pour les vins nature, c'est pour des vrais produits. On voulait continuer, mais c'était notre identité qui était différente. Et comme c'était différent, quand on copie, on pourra jamais faire mieux que la personne qui l'a faite. Donc il faut pas copier. Il faut tout le monde s'inspire. Moi le premier, on a tous des sources d'inspiration. On voit tous des choses qui vont nous amener vers un cheminement créatif ou même esthétique ou même de produits qui vont faire avancer les choses. Mais on peut pas reproduire une copie, c'est une copie. C'est pas une inspiration, c'est une copie. Une inspiration, ça peut aider, mais on a fait notre lieu. Moi, j'ai fait ma cuisine. Clément a fait sa sélection de vins. On n'achète pas du vin parce que les gens adorent, ou on achète, enfin, oui, on fait pas des frites chez Devian parce que ça marcherait bien. On fait ce qu'on veut faire, et ce qui est important, c'est qu'on a des restaurants dans lesquels on aimerait être client.
Tes restaurants, tu les imagines, enfin, tu te fais plaisir aussi en imaginant tes restaurants?
Oui, bah, Devian, on avait envie d'avoir un lieu ouvert on aime beaucoup les vieilles boucheries et les vieilles poissonneries de quartier. T'as un rideau de fer, tu lèves le rideau de fer, l'endroit est ouvert. Il y a énormément d'endroits dans le Pays Basque qui sont comme ça. Nous, on avait envie de faire un lieu comme ça, d'où là de pas faire les choses à demi-mesure. Pas de chaises, on est debout. Pas de réservation.
Ça a pas de demi-mesure en fait.
Ouais, c'est vraiment vraiment faire les choses à fond. Sinon, c'est pas un demi verre de vin, c'est
pas drôle.
Ouais.
Mais je veux dire,
Nadal et ses pantacours, c'est pas drôle. Enfin, un demi verre. Voilà, c'est un demi verre, non, c'est un verre.
Tu pourrais cuisiner des choses que t'aimes pas.
J'aime tout, malheureusement. Enfin, heureusement. Non, le seul truc que j'aime pas, c'est les pâtes de fruits, parce qu'une fois, j'ai un mauvais souvenir enfant. Mais j'en ai jamais remangé depuis, je crois.
Tu fais une cuisine du cœur ou de la tête?
Un peu des deux, parce qu'il faut quand même énormément réfléchir. C'est énormément de réflexion. Mais au moment où on pose un morceau de poisson, ou trois feuilles d'épinards, ou un morceau ou des légumes dans une assiette, c'est plus la tête, c'est l'instinct. Ça dépend encore de la tête, mais après c'est l'envie de faire que toutes les assiettes qui sont posées sur le pass, toutes les assiettes qu'on va regarder une dernière fois avant de dire de Saint-Jacques table 3 ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on transmet, quoi. C'est, on donne quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. C'est pas que, machinalement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la réduction de l'inconnu et du doute. Je mets pendant le service, mes couteaux au même endroit, le sel au même endroit, le poivre au même endroit, l'huile d'olive au même endroit, mon torchon est au même endroit sur mon tablier. Un citron va être posé au même endroit. De manière à pouvoir faciliter tout le reste, je me suis organisé de manière à ne pas avoir à regarder plein de choses. Et ça facilite, et ça permet d'être beaucoup plus naturel. Et le jour où on se dit, je vais faire ça et ça et ça, au lieu de ça, ça et ça, j'avais pas besoin de me dire, huile d'olive, attends, oui, elle est là. Voilà, c'est au même endroit, je sais où elles sont, j'ai mes ingrédients. Et après, faut y aller. C'est instinctif. C'est très instinctif.
Et qu'est-ce qui te pousse? Tu parlais d'envie. C'est quoi ton envie profonde quand tu donnes ces assiettes aux gens? T'as envie?
Déjà, c'est faire plaisir. Faire à manger, c'est avoir envie de faire plaisir à quelqu'un. Quand quelqu'un vient, en tout cas, moi, quand je vais au restaurant, c'est évidemment manger. C'est quelque chose dont on a besoin pour vivre, manger, s'alimenter, boire un litre et demi d'eau par jour, manger 5 fruits et légumes. Mais c'est aussi pour se faire plaisir. On va au restaurant pour passer un bon moment, pour se faire plaisir. Et moi, j'ai envie de faire plaisir aux gens. J'ai envie que les gens passent un bon moment. Et il y a des journées avec, le musicien qui dit, ah, ça c'était un bon concert, ah non, ça c'était un mauvais concert, mais c'est pas parce que la dorade était un peu moins bien que d'habitude, c'est parce que il y a des jours où c'est plus dur de donner aussi. Et le but du jeu, c'est de pouvoir donner vraiment tous les jours.
De se mettre en condition pour que ce soit...
Oui, d'ailleurs, avec Clément, avant le service, quand on va changer, qu'on met nos sabots et qu'on met notre tablier blanc, on rentre dans le service. On rentre dans un moment où on va tout regarder et donner. Voilà. Essayer, faire attention, essayer de trouver, comprendre pourquoi. Et voilà, on propose de faire des cartes blanches. Et deux personnes qui ne savent pas vraiment quoi commander, mais si vous voulez, vous nous dites, j'ai vu ça passer tout à l'heure, j'aimerais vraiment goûter ce plat. Ou j'aime beaucoup l'agneau, ou je n'aime pas le poisson, ou j'ai envie de manger des légumes aujourd'hui. Et là, c'est ce qu'on faisait avant. Voilà, il y a des, je reçois deux ou trois pièces de sèche par jour. Avec les têtes, je peux que faire deux ou trois portions, du coup, donc je ne les ai pas à la carte. Mais les personnes qui nous demandent de faire ce qu'on veut, on fait vraiment ce qu'on veut. Et ça, ça va être très plaisant aussi. Et c'est pareil pour tout ce qu'on fait.
Tu regardes les clients aussi à qui tu fais à manger?
J'aurais une cuisine fermée en sous-sol sûrement. C'est essentiel. Et aussi d'avoir un restaurant dans lequel de chaque mètre carré de vivant ou de déviant, on peut voir n'importe où. Et donc, on peut, bon, déjà, ça veut dire que tout le monde peut savoir, voilà, il y a des plats qui ont évolué, mais que ça soit de passer une assiette plate à une assiette creuse, ça change drastiquement la manière dont on va manger un plat et de voir les gens comment est-ce que naturellement ils vont manger un plat.
Ouais, il y a une interaction.
On pose énormément de questions. Je vais pas dire qu'on a des cobayes, mais on demande réellement aux gens comment ça s'est passé. On fait attention, surtout. Ça, c'est plus quelque chose qu'on a chez Deviant. Est-ce que c'est facile à manger? Non, en fait, t'es debout. On peut pas mettre un plat dont on a besoin d'un couteau, d'une fourchette et de manger au-dessus. Voilà, il y a des plats qui sont faits pour être mangés assis, il y a des assiettes qui sont faites pour être mangées debout. Point. Et donc, faut faire attention à ce qu'on fait.
Est-ce que t'as le sentiment d'avoir trouvé ton style?
Je vais pas dire que je suis bipolaire, mais il faut penser deux styles de cuisine. Non, je sais ce que je sais, c'est le type de produit que j'aime bien utiliser, à savoir des bons produits frais de saison, dans une simplicité, une belle exécution. Et non, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on me dit ah mais ça a l'air si simple mais j'ai jamais réussi à le faire à la maison, c'est pour ça aussi. Enfin, il y a des par exemple un plat qu'on a à la carte chez Vivant et qui va rester indéfiniment, qui est la mloukhia, qui est un plat très traditionnel, bon, pour moi tunisien parce que j'ai des origines tunisiennes, mais il y en a beaucoup en Égypte et au Liban aussi, et c'est une sauce très sombre, noire. Ça recouvre l'intégralité de la viande. On vient servir la sauce en saucière, en argent, devant le client. Mais quand on voit cette sauce, on se dit pas, tiens, on dirait qu'il y a 3 jours de travail, plus de 10 ingrédients.
C'est la sauce avec les olives?
Non.
Non.
C'est un cousin du laurier qui s'appelle la corette, en français, qui est une plante qui sèche et qui est broyée, qui donne cette dimension végétale, une petite amertume et une texture à ce plat. Mais même l'équilibre des sauces, c'est...
Je trouve qu'il y a une profondeur quand même dans ta cuisine qu'on ressent et...
Oui, alors il y a peut-être pas beaucoup d'ingrédients, mais il y a beaucoup de choses cachées.
Oui,
ça, c'est ce...
et il y a une technicité que les gens voient pas forcément, mais qui se ressent quand même.
Mais il faut
même.
Quand même avoir un élément de surprise dans ce qu'on mange.
Bien sûr.
C'est pour ça même qu'on a des intitulés courts. C'est aussi pour garder une vraie liberté dans ce qu'on fait. Mais le fait d'avoir des intitulés courts, même quand on va au restaurant, moi j'ai pas forcément envie de dire, ce plat que tu, ce le canard en deux services qu'on fait on a enlevé les olives dans ce jus à la badiane, mais il y a aussi un peu d'estragon, puis il y a l'amertume du navet, et puis il y a la salade avec les cuisses confites qu'on sert à part. Avec les pistaches et les raisins. Oui, il y a beaucoup d'ingrédients.
Ouais, mais il y a une profondeur. Enfin, ce plat, il était fou et...
On y a quand même pas mal réfléchi à ce plat. C'est la meilleure façon de se faire une idée c'est de venir, je veux dire, mais c'est, enfin, on peut pas, la seule manière de se faire un avis, c'est de goûter, de toute manière. Voilà. Et nous, on pense que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'en suis, c'est un peu un point d'honneur, la simplicité visuelle peut cacher une complexité technique énorme. Et c'est ça la beauté de notre métier aussi. On est avant tout artisan, technicien, c'est un métier très manuel, un métier qui nécessite du savoir-faire, beaucoup voilà, de l'apprentissage, c'est de l'entraînement pour arriver à faire en sorte que ça a l'air simple aussi. Oui, un type qui saute, qui fait un triple saut, il court, il fait 3 poids et puis ben il est 7 mètres plus loin. Ben non, c'est
des années d'entraînement derrière.
Beaucoup d'entraînement. Mais c'est pareil pour tout le monde. Je veux dire, c'est conduire une voiture, c'est s'entraîner, voilà. Faire un beau bouquet de fleurs, il faut s'entraîner. C'est paraît naturel, mais c'est compliqué à faire.
Quel est le plat dont tu es le plus fier ?
On peut parler de plats un peu emblématiques qui ont été chez Vivant. J'ai fait très longtemps un thon juste grillé au chalumeau avec une mayonnaise à l'olive. On appelait ça le thon à la tunisienne parce que en Tunisie, il y a un sandwich qui est, enfin, casse-croûte tunisien, qui est avec du thon, de l'olive, de la pomme de terre, de l'œuf, des câpres, du persil, tu entends de l'oignon. Sauf qu'à ce moment-là où j'avais envie de faire un peu ce plat-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà des câpres sur le menu. Il y a jamais un ingrédient qui se répète. Ça, c'est très important chez nous. C'est pas un ingrédient qui se répète 2 fois sur le menu. À part le sel, le sucre, le poivre, l'huile d'olive, le citron et la sauce soja. Il n'y a pas d'ingrédients qui se répètent. Et donc, il me restait plus que le poisson, l'olive et l'œuf. Et donc, on a fait ce plat et j'en suis assez fier. Ouais. Mais c'est, d'ailleurs, on le fait plus à la carte, mais ça me manque. Je
pense. On va passer à l'aller-retour. Ton âge ?
25 ans.
Ton signe astrologique ?
Lion.
Ton plat signature ?
Celui que j'ai, oui, le thon avec cette mayonnaise à l'olive que je ne fais plus.
Ton plat préféré?
Les pâtes, ouais.
À quoi?
À tout. Les pâtes, c'est toujours bon.
Le chef que tu admires le plus?
Sûrement ce monsieur qui découpe des sushis depuis 37 ans rue des Ciseaux, au restaurant de Tsukiji.
Ton ingrédient préféré?
L'huile d'olive.
Ton ingrédient détesté?
Je n'en ai pas.
Ton ustensile fétiche?
Sûrement cette fameuse plaque à induction que j'ai achetée à 50 euros chez Darty qui nous sauve la vie.
Ton dernier meilleur repas?
Une soupe dans le 13e arrondissement avec un gros morceau de canard et des nouilles.
Où?
Je ne donnerai pas cette adresse, J'y tiens énormément. J'y allais après mes entraînements de rugby à 10h30. Ils ouvrent très tôt, ils ferment très tard. C'est le seul indice que je donnerai.
Le resto que tu aurais aimé ouvrir?
Sûrement celui que je dessinais enfant avec mon copain d'enfance, César.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait?
C'était pas le meilleur, mais hier soir, quelqu'un dit, mon amie m'a envoyé ici parce qu'elle m'a dit que c'était son restaurant préféré à Paris. Et maintenant, je le pense aussi, merci beaucoup. Non, juste quand les gens sont vraiment émus et te remercient. Ou juste de voir un client content qui dit merci beaucoup, au revoir, c'est un énorme compliment.
Et la pire critique?
C'était assez récemment. On a en débarrassant une table, on a demandé tout s'est bien passé. Et j'ai entendu, pour être honnête, non. Est-ce que je peux avoir l'édition? Je pensais que c'était une blague, ça ne l'était pas.
Ouais, je vois. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Quand on m'a appelé chef pour la première fois. Je me sens pas. C'était chez Vivant parce que c'était la première fois que j'étais vraiment maître de ma cuisine.
Que tu mettais ton nom sur une carte un peu.
Oui, aussi, sur une identité, sur un lieu.
Tu revendiquais.
Oui, c'est chez moi.
Et quel genre de chef es-tu? Tu disais que t'arrivais à parler de façon ni négative ni positive, d'être assez.
Il faut être direct dans la vie quand même.
Direct,
quand
ouais.
Quelque chose ne va pas, ça ne va pas. Quand quelque chose va très bien, c'est. Super, mais il faut trouver le bon équilibre.
Voilà, tu cherches.
Ça m'arrive de dire des trucs très rapides pendant le service pour pouvoir en parler après, à la fin.
En tout cas, il y a une bonne ambiance, comme on peut le voir quand on vient manger.
on peut pas faire la gueule en cuisinant, de toute manière. Il faut être content de cuisiner, c'est son métier déjà, donc faut être content d'exercer son métier, qui est un magnifique métier, mais il faut être heureux. Faut faire plaisir aux gens. On peut pas faire plaisir aux gens en étant triste. Et c'est il y a des jours où on a moins envie de crier bonsoir, bienvenue à chaque personne qui passe la porte. Mais il faut donner. C'est 5 jours par semaine. À partir de 19h, on rentre dans un caractère.
À quoi ressemblent tes journées de cuisinier? Enfin, non, à quoi ressemblent tes journées, tout court?
La première chose que on m'a reproché très récemment de, la dernière et la première chose que je fais, c'est parler à mon fournisseur de poissons. Enfin, ouais, à mes fournisseurs en général.
Par SMS?
Par SMS ou un coup de téléphone, ça peut être de, est-ce que ça t'intéresse de deux caisses dans cornet ou est-ce que ça t'intéresse deux caisses dans cornet ou j'ai un problème sur le basilic ou le persil n'arrivera pas aujourd'hui, il sera là demain ou là c'est fait, voilà, les petits pois ne sont pas arrivés hier, donc il fallait tout rechanger. Ma journée commence assez souvent comme ça. Après je vais assez rapidement au boulot en fait. Bah, après,
tu commences à quelle heure là?
Je suis rue
la
des...
cuisine.
Je suis entre 10h et midi. Ça dépend des jours. On a des jours plus chargés que d'autres. Mais entre 10h et midi. Mais en vrai, je commence à cuisiner le matin. Enfin, quand je commence à réfléchir, même de s'organiser, voilà, de se dire, tiens, je vais commencer par faire ça. C'est, ben, ça s'arrête jamais en vrai. Hein. C'est faire ce qu'on veut, ça s'arrête pas.
T'as un besoin viscéral, en tout cas, de tenir des casseroles tous les jours.
Oui. Oui, je vais pas pouvoir mentir sur ça non plus, mais je vais pas mentir du tout d'ailleurs.
On l'a compris.
Mais oui, je m'ennuie profondément. J'aime mon métier, je suis content de pouvoir le faire. Et aussi, la répétition permet de s'améliorer et le sentiment d'amélioration, c'est quelque chose de génial. Et c'est très important.
Mais ça vient assez vite. Enfin,
ça vient, mais ça s'arrête jamais. Hein. Ouais. Ça s'arrête jamais. Ouais. On se dit toujours, ah ouais, là, je sais vraiment bien le faire. Et puis en fait, la fois d'après, tu le fais encore plus vite et encore mieux. Mais ça peut aller jusqu'à tailler une brunoise. Hein. On a un plat en ce moment là, avec une brunoise de pommes de terre. Un peu sous un poisson cru avec du poivre vert au sel et les premières fleurs de roquette et de brocoli et la brunoise, oui, un cube peut être parfait, mais après combien de paris on fait, combien de temps on va prendre, combien d'agilité on va avoir à le faire, est-ce qu'on va devoir vraiment se concentrer, enfin ça peut toujours, même un cube parfait, voilà, il y a tout le cheminement d'avant aussi qui rentre en compte. Il n'y a pas de perfection, mais c'est très agréable de le faire de mieux en mieux. Presque parfait.
Tu te sens plus cuisinier?
Oui, complètement.
Restaurateur un peu aussi?
Restaurateur aussi, parce que je suis à la tête de, pas tout seul, heureusement, ça serait beaucoup trop de travail, de des établissements.
Chef un peu?
chef beaucoup, même. Chef beaucoup, ouais.
Tu te présentes comment aux gens qui te connaissent pas?
Je dis que je suis cuisinier. C'est le plus simple. Parce que après, c'est répondre à une question à laquelle je ne sais pas répondre, qui est « Ah oui, c'est quel type de restaurant ?» Et là, je ne sais jamais y répondre.
Du coup, t'abrèges la conversation.
Du coup, je dis juste « Ah, je suis cuisinier, oui, dans le 10e, voilà.
» Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail au quotidien ?
Avoir... pouvoir travailler avec des très beaux outils. C'est avoir un objet, voilà, bon, c'est électronique, là, c'est un fourneau, voilà, qui marche très bien avec des belles cocottes en fonte. Enfin, moi, ça me procure énormément de plaisir de recevoir des produits qui ont un goût magnifique. C'est génial. C'est ça qui me donne envie de continuer, c'est que tous les ans, à peu près au même moment, il y a des asperges qui arrivent. On est content. Et après, il y a la truffe qui termine. Mais les fèves et les petits pois arrivent. Voilà. Et en hiver, il y a moins de produits, mais en hiver, tu peux faire des gibiers. Tu peux faire des sauces, des choses peut-être plus consistantes. Donc voilà. Il y a ce jeu entre envie. Ouais, c'est l'envie qui évolue.
Plusieurs fois, t'as fait référence au jour avec et au jour sans.
Ouais.
C'est comment tu fais quand c'est un jour sans? T'arrives quand même à donner.
En fait, le jour sans vient disparaître très vite quand les clients arrivent. au premier, bon, aussi mon travail en musique, ce qui a amélioré nos, il y a plusieurs chefs qui disent ça, que ça a amélioré les conditions de travail. Enfin, l'après-midi, on écoute la radio, on peut écouter des radios classiques, des podcasts. on écoute radio classique ou on écoute beaucoup de choses. Pas tout le temps, on fait des journées de silence aussi. Mais, par exemple, moi, je me suis rendu compte que quand le service est là, tout le reste, j'ai travaillé avec des vins coupés, des grosses brûlures, des fièvres. Quand t'es dans le service.
T'es dans une transe, en fait. Ouais. Tu rentres dans un,
non, mais
dans
c'est
autre
un,
chose.
C'est un exercice. Il faut, et on reprend ses habitudes et après, c'est les mêmes calculs qu'ils reprennent. Tiens, on va faire deux canards avec un agneau et un thon. Et après, faudra quand même lancer ça au four tout en faisant telles entrées. Et il y a un tel qui est arrivé. Du coup, faut peut-être sortir, je sais qu'il aime ça. Du coup, faut peut-être sortir ce morceau de viande du frigo qu'on a un peu mis de côté, que lui aime beaucoup. Comme ça, il sera à la bonne température quand on devra le lancer en cuisson. Et après, voilà, il y a tout ça qui reprend et...
Ta mauvaise humeur s'en va.
Et après, il est minuit et demi, il faut faire le point pour le lendemain et voilà.
Bon, c'est la fin et on a faim. Qu'est-ce qu'on fait si on veut cuisiner comme Pierre Twitou à la maison?
Il faut déjà des très bons produits, frais, de saison et toujours de l'huile d'olive et un peu de sel.
Et donc?
on aime beaucoup. En fait, la vraie cuisine qu'on fait, c'est celle qu'on fait au repas du personnel. Et souvent, c'est dans le même plat. Enfin, tout vient dans le même plat. Mais de pouvoir cuire un morceau de poisson avec un peu d'oignon, un peu d'ail, un peu de vin blanc, trois tomates écrasées et beaucoup d'herbes et de manger de la salade à côté, ça reste quand même une des meilleures choses du monde.
Donc, tu mets tout au four?
On met tout au four sauf la salade et puis il faut toujours du repos et ce qui est vraiment très bon, c'est quand t'as pas le temps de manger assis et que tu mets tout dans un morceau de pain, tu te fais un sandwich et ça le c'est quand même très 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 bon.
Merci Pierre.
Merci Julie.
Vous venez d'écouter l'épisode 17 de la saison 2 avec Pierre Twitou. Vous pouvez goûter ce qu'il a dans la poêle, dans son restaurant Vivant 2 et son bistrot Déviant, respectivement situés au 43 et 39 de la rue des Petites Écuries à Paris. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poêle sur votre appli podcast préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poêle.